Sans tabou, 12h-12h30, avec Anne-Sophie et Jérôme.
T'es nul, t'es moche, t'es débile, t'es trop gros ou trop grosse, t'es trop intello, on t'aime pas, personne veut te parler, tu ne sais pas t'habiller. Voilà le genre de remarques que de nombreux élèves ont à subir tout au long de leur scolarité. On a tous déjà vu et entendu ce genre de remarques dans les couloirs de l'école. Et aujourd'hui, il faut savoir dire stop. Le harcèlement scolaire est une réalité qu'il ne faut jamais minimiser, car en plus de briser toute confiance en la victime, le harcèlement peut aller beaucoup plus loin et pousser ceux qui le subissent à se haïr, à tort, évidemment, voire à commettre l'irréparable. On se souvient tous du cas de Marion qui s'est donné la mort à l'âge de 13 ans après avoir subi pendant de longs mois le harcèlement de ses camarades. Mais alors pourquoi certains se permettent d'humilier et de violenter leurs camarades? Et surtout, comment aider ceux qui en sont victimes? Eh bien, nous en discutons aujourd'hui sans tabou.
Et Marion, on parle de Marion, mais c'est malheureusement une parmi tant d'autres, hein. On vous le rappelle, cette émission, c'est la vôtre. Vous allez venir prendre la parole sur notre antenne. Racontez-nous vos expériences, que vous ayez été harcelé ou alors que vous ayez vous-même été le harceleur. Venez nous expliquer comment vous l'avez vécu et surtout comment vous êtes sorti de cette spirale infernale qu'est le harcèlement scolaire. On vous attend au standard 03 82 21 04 04.
Et pour répondre à nos questions, nous accueillons tout de suite Alexia Mézé, médiatrice au sein de l'association Apsis Émergence à Thionville. Madame Mézé, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer le nombre d'enfants qui souffrent de harcèlement en milieu scolaire?
Alors, le taux officiel, c'est de 10%, mais c'est toutefois quand même difficile à estimer parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent et qui, en fait, ne disent rien. Donc, c'est un sujet qui reste encore un peu tabou, même si il faut quand même le reconnaître, on en parle de plus en plus et on prend ce sujet très au sérieux. Mais en plus, il faut ajouter le cyberharcèlement qui complique la donne, parce que aujourd'hui, on estime que 50% des jeunes ont déjà reçu un message d'insulte par SMS. Donc, ça augmente et le nombre de victimes et le nombre d'agresseurs.
Alors, comment il se manifeste, ce harcèlement?
Alors, le harcèlement, c'est souvent trois constantes, hein. C'est la répétition d'actions négatives sur le temps, c'est la disproportion des forces, parce que souvent, les agresseurs, c'est pas un agresseur, c'est un petit groupe d'agresseurs, et l'incapacité pour celui qui subit l'intimidation de se défendre lui-même, quoi, hein. Puisque, voilà, oui.
Est-ce qu'il existe un profil type du harceleur scolaire?
Alors, le profil type, c'est difficile à décrire, hein, parce qu'il y a des jeunes gens qui sont tout à fait ordinaires, qui ont reçu une éducation tout à fait convenable, qui peuvent devenir d'authentiques tyrans et agresseurs. L'effet de groupe, souvent, a une importance, un rôle important, mais il y a quand même quelques caractéristiques. Les agresseurs, ils manquent un peu d'empathie, c'est voilà, la capacité de se mettre à la place de l'autre, il y a l'absence de culpabilité. Le meneur, il a souvent un fort charisme, c'est quelque chose qui le rend populaire, il veut faire rire les autres, donc il est souvent drôle, il sait s'emparer des petits défauts des autres pour les tourner en dérision. Il sait aussi se comporter de façon à ce que ses méfaits soient complètement cachés aux yeux des adultes, mais par contre c'est très visible aux yeux des élèves. Et donc voilà, il dirige ce petit groupe d'élèves qui a du mal à s'extirper en fait, à s'affranchir du groupe et qui continue les agressions avec le meneur, s'il peut y avoir un meneur, quoi.
Alors on a Lorraine qui est avec nous au standard, elle a souhaité nous apporter son témoignage. Elle a été harcelée, elle, dans sa jeunesse. Bonjour Lorraine.
Bonjour Lorraine.
Bonjour.
Lorraine, on vous écoute, vous avez la parole, faites-nous part de votre témoignage.
Alors moi j'ai été harcelée pendant mon année de seconde au lycée. Et c'était, bizarrement, c'était par mes amis. Enfin mes amis, on était ensemble depuis le collège. Et c'est au bout d'un moment, c'est des petites critiques, c'était idiot, c'était sur le physique, là, t'es grosse, ça donnait de plus en plus méchant, c'était t'es moche, tu pues, enfin, mais c'était des choses, c'était uniquement pour blesser, c'était pour s'amuser, elles se sentaient fortes parce qu'elles étaient cinq contre une seule fille. Et puis après, elles mêlent la classe à tout ça, donc c'est 20 élèves contre une seule personne. C'est du harcèlement, c'est tous les jours en cours. C'est des mots blessants et forcément, les professeurs n'entendent pas. Et c'est tous les jours, on a peur d'aller en cours le matin. C'était ça pendant un an.
Et vous avez réussi à en parler finalement autour de vous, que ce soit vos parents ou peut-être d'autres personnes de votre famille?
Alors non, pas au début, parce qu'on a un peu honte, faut le dire. Enfin, même si c'est pas normal, on a honte de se faire traiter comme un...
Et peur aussi.
Comme un manque rien.
Honte et peur, en fait.
Oui, on a peur aussi, oui, parce qu'on a peur que... Enfin, on est menacé, on a peur que si des adultes l'apprennent, on va se faire taper, tabasser à la sortie des cours.
Ouais, ou que ça empire même.
On a vraiment peur. Donc au début, non, j'en parlais pas. Et puis c'est ma grande sœur qui voyait que j'allais de moins en moins bien. Et quand elle a compris ce qui se passait, parce qu'elle était en terminale à l'époque, elle a pris les devants et elle m'a aidée. Et grâce à elle, ça, j'en suis sortie. Mais non, au début, enfin, il faut vraiment qu'on soit aidé. Moi, je sais que si ma grande sœur n'avait pas vu que ça n'allait pas, j'en aurais pas parlé. Et je pense que ça aurait pu mal tourner.
Alors, je voudrais vous poser une question. Est-ce que clairement, entre vous et moi, hein, Lorraine, est-ce que même si vos professeurs n'ont pas réagi, vous avez eu l'impression, est-ce qu'ils s'en sont rendus compte de ce qui se passait?
Bah écoutez, j'avais l'impression que oui, pendant les cours, ils s'en rendaient compte parce que je veux dire, une vingtaine d'élèves plus qui...
On est d'accord, c'est là où je voulais en venir en fait.
Oui, voilà, il faut être clair... Ils s'en rendent compte, il faut le voir, mais je pense qu'ils se cachaient parce qu'eux-mêmes peut-être avaient peur ou qu'ils ne voulaient pas intervenir.
Voilà.
Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, je sais qu'il y en a certains, ils le voyaient et ils disaient rien. Donc ça me mettait encore plus, enfin, j'étais encore plus mal parce que je me disais, mais même un adulte ne vient pas m'aider, quoi. Donc c'est...
Madame Mézet, je voudrais vous faire réagir. Vous restez avec nous, Lorraine, parce qu'on n'en a pas terminé. Je voudrais juste vous faire réagir là-dessus. Et c'est pas un témoignage isolé. Hein. C'est vrai, très souvent dans les collèges et dans les lycées, les professeurs se rendent compte, mais ne disent rien. Alors je veux bien comprendre, dans un sens que bon, le professeur n'a pas le rôle du parent, le professeur n'est pas un surveillant. Il y a d'autres élèves dans la classe qu'il faut s'occuper. Mais est-ce qu'un jour vous pensez vraiment qu'on pourrait trouver une solution à partir du moment où il faut arrêter de se voiler la face? C'est de se dire que les professeurs ne voient rien. Les professeurs voient mais ne réagissent pas.
Alors, bah, vous venez de dire quoi, il faut arrêter de se voiler la face. C'est effectivement un des axes de travail, quoi. Il faut en parler régulièrement, souvent, aussi bien aux équipes éducatives qu'aux élèves eux-mêmes. Et il y a quand même des programmes qui sont engagés, hein. Par exemple, il y a 31 référents académiques sur la Meurthe-et-Moselle qui sont à l'écoute des jeunes, non, et qui peuvent donc leur téléphoner. Et il y a des protocoles qui sont mis en place. Donc oui, ça avance quand même, hein, lentement, hein, parce qu'effectivement, c'est quand même un problème qui n'est pas résolu, mais qui devient un peu moins tabou parce qu'on en discute et parce qu'il y a des gens qui se mobilisent et donc les choses avancent, quoi.
Lorraine, aujourd'hui, vous avez l'impression de vous en être sortie ou vous avez encore des séquelles de tout ça?
Non, honnêtement, j'en suis sortie parce que grâce à ma famille déjà et à une amie qui a aussi vécu la même chose, donc à deux, on s'est remonté le moral, entre guillemets. Et puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc non, je pense que ça va, il suffit d'en parler, de trouver les bonnes personnes.
Alors avant de vous laisser et de terminer cette conversation, je voudrais vous poser une dernière question, même si je sais que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui nous écoutent, aux parents de jeunes qui ont été dans votre situation? C'est quoi finalement la meilleure solution?
Alors, c'est en parler. C'est surtout, effectivement, ne pas rester isolé. En parler, alors déjà peut-être au chef d'établissement, hein, si c'est un parent qui s'aperçoit... Alors, les signes, en plus, Lorraine l'a dit, c'est difficile parce que les parents s'en rendent pas forcément compte parce que les élèves cachent. Mais voilà, en parler, il y a le numéro le 3020, hein, qui peut être appelé aussi, faire appel aussi aux amis, en parler avec les parents d'élèves. C'est vraiment un des moyens pour lutter contre ce phénomène de harcèlement.
Et vous, Lorraine, vous le ressentez comment? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces jeunes qui vivent peut-être la même situation que vous aujourd'hui?
Moi, je leur dirais qu'il faut prendre son courage à deux mains, même si je sais que c'est pas facile. Il faut être courageux. Et il faut en parler à ses parents ou à un frère ou à quelqu'un, enfin à n'importe qui, pour que cette personne puisse nous aider. En parler.
Merci beaucoup Lorraine pour ce témoignage poignant que vous nous avez apporté. Vous aussi, vous allez pouvoir nous appeler au standard 03 82 21 04 04. On vous attend avec notre invité.
Alors justement, Madame Maison, on parlait des enseignants il y a quelques instants. Est-ce qu'à votre avis, ils sont assez formés pour repérer et réagir les cas de harcèlement?
Alors je pense que tous ne le sont pas. Mais malgré tout, il y a une prise de conscience de ce phénomène et il y a de plus en plus d'adultes dans les établissements scolaires qui se soucient du harcèlement et qui justement se forment, essayent de se mobiliser et donc du coup font appel par exemple à des associations comme la nôtre pour faire des actions de prévention du harcèlement ou mettre en place dans les établissements d'autres programmes comme la médiation par les pairs ou des programmes de formation à la gestion des conflits pour que en amont il puisse y avoir par la suite moins de harcèlement.
Et alors, comment est-ce qu'on peut repérer une personne qui subit un harcèlement? Quand je dis repérer, il y a souvent des signes, soit il se renferme ou... Comment est-ce qu'on peut détecter?
Oui, c'est ça. Bah, comme il y a une perte d'estime de soi, la personne, elle est quand même blessée au plus profond d'elle-même. Donc, ce sont des élèves qui se renferment, qui sont moins bavards, qui participent moins aux discussions familiales, par exemple, dans la famille. Ils sont un peu plus discrets, ils perdent du goût du travail aussi. Donc, il y a une baisse des résultats scolaires, ils sont plus fatigués. Souvent, ils mettent en place des stratégies pour éviter le harcèlement, donc pour éviter d'aller à l'école. Donc, ils ont mal au ventre, ils ont des problèmes de santé qui, eux, sont bien réels. Hein. Les symptômes sont bien réels et ils sont même très destructeurs. Mais ça vient justement de cette peur du harcèlement. Donc, beaucoup de problèmes de santé, un peu d'isolement, beaucoup d'isolement d'ailleurs. Et c'est vrai qu'à long terme, beaucoup de difficultés à se reconstruire et à s'épanouir dans sa vie, quoi.
Alors, on a Amandine qui est avec nous au standard, qui voulait également nous apporter son témoignage. Amandine, c'est sa petite sœur qui a été victime d'harcèlement. Bonjour Amandine.
Bonjour Amandine.
Bonjour les filles.
Alors Amandine, on vous écoute, vous avez la parole, apportez-nous votre témoignage.
Eh bien, effectivement, ma petite sœur a été victime d'harcèlement scolaire. Il y a de ça 3 ans en arrière, depuis on a pris des mesures pour la protéger. Ça a commencé, pareil, par des indices qui nous ont fait penser qu'elle allait très mal, hein, de l'isolement, elle s'est renfermée et pleurait beaucoup, elle voulait pas aller à l'école le matin, c'était une catastrophe, c'était des hurlements.
Elle avait quel âge à l'époque, Amandine ?
Eh ben, elle avait 12 ans.
12 ans,
ouais. Elle avait 12 ans et on a fini par se dire que quelque chose allait pas. Il a fallu la faire parler et ça c'était pas évident non plus jusqu'à ce qu'ils nous disent qu'à l'école effectivement, il y avait des coups, il y avait beaucoup de moqueries, ça a été assez loin en ce qui la concerne, tellement loin qu'on a dû la déscolariser.
Ah oui, quand même.
Oui, définitivement, hein. Là, aujourd'hui ça fait 3 ans qu'elle suit de l'école par correspondance.
Et vous pensez qu'un jour elle réussira quand même à être de nouveau scolarisée dans un établissement, peut-être l'étape supérieure, le lycée?
Non, justement, c'est pas du tout son souhait. Elle est en crainte totale. Donc derrière, elle est suivie psychologiquement et c'est vrai que l'équipe médicale n'est pas d'accord non plus pour qu'elle reprenne pour le moment un environnement scolaire normal.
Est-ce qu'elle va mieux, votre sœur, même si elle n'est plus aujourd'hui scolarisée ?
Aujourd'hui, oui. Elle va mieux puisqu'elle n'est plus confrontée à ce harcèlement quotidien. Pour le coup, elle a dû passer son brevet des collèges l'année dernière. Et le simple fait de devoir retourner au lycée pour passer les épreuves, pour elle, c'était un stress encore plus important que l'épreuve en elle-même. Hein.
Mis à part le secteur scolaire, elle peut encore aujourd'hui aller dans un centre commercial, aller sortir avec des copines, passer une après-midi chez un copain ?
Alors, ça a été pendant un temps non. Par contre, elle a retrouvé, une activité qui lui permet de s'évader. Elle fait de l'équitation quasiment au quotidien. Et ça lui permet, avec le centre équestre, de garder un contact quand même avec un monde extérieur et avec des personnes de son âge. Mais sinon, c'est vrai que même pour la faire sortir en ville, elle a toujours peur du regard des autres. C'est toujours dans un jugement qu'elle a peur d'être confrontée, en fait.
Merci. Oui, pardon, excuse-moi, tu voulais réagir peut-être ?
Je voulais faire réagir notre invité, mais...
Oui, mais bien sûr, avec plaisir.
Madame Mézé, par rapport à ce témoignage, on voit que ça peut aller très très loin jusqu'à la déscolarisation. La reconstruction est longue ?
La reconstruction est longue, oui, parce que du coup, l'estime de soi de ces élèves qui sont victimes de harcèlement, elle est vraiment mise à rude épreuve. Et se reconstruire, se réépanouir, ça prend du temps. Oui, refaire confiance aux gens, ça prend énormément de temps.
Merci beaucoup en tout cas Amandine de nous avoir appelé au standard. On vous souhaite une excellente journée.
Madame... Bonne journée Amandine et bon courage à votre petite sœur. Ah.
Madame Mézé qui va rester également avec nous. On marque une courte pause et on revient dans votre émission Sans Tabou.
L'heure FM.
Top, vos gencives sont douloureuses, vous ?
J'arrête de manger.
Non, une solution efficace pour soulager les douleurs de vos gencives.
De la glace ?
Non, il existe Arthrodon. Enfin, vous savez, le dentifrice Arthrodon.
Antalgique et décongestionnant. Arthrodon pour soulager les douleurs dues à certaines maladies des gencives et aux blessures par prothèse. Arthrodon 1% pâte gingivale. Médicament contenant le linoxolone. Pas avant 3 ans. Lire attentivement la notice. Se brosser les dents après chaque repas. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre dentiste.
But déclenche son déstockage massif. Bonnes affaires, vraies économies et prix sacrifié. C'est maintenant. Maintenant chez But. D'ailleurs, moi, j'y suis déjà.
But, c'est nous.
Voir conditions et produits concernés en magasin et sur but.fr.
Alors, je prends ça, ça, ça et ça.
Non, ça, c'est l'extincteur du magasin But.
Avec Maxime pour un slalom.
Oui, bien maintenu par ses chaussures de ski Edge de Head, avec leur système de crochet à réglage micrométrique.
Il efface les portes avec une précision
micrométrique.
Vous m'ôtez le micro de la bouche.
Chez Decathlon, du 5 au 15 novembre, préparez-vous au sport d'hiver. Les chaussures de ski Edge de Head, en prix public conseillé à 299,99€, sont à 249,99€ chez Decathlon. Decathlon, à fond la forme, voir conditions en magasin et sur decathlon.fr.
J'ai adoré notre premier rendez-vous, Magali.
C'est vrai. C'est gentil, Pascal. Je dois t'avouer que j'étais séduite par... Alors, Discount, je dois filer. Aujourd'hui, les 4 basques 2 étoiles à griller Origine France sont à 6,49€ le kilo chez Netto.
On peut pas lutter contre une alerte Discount.
Netto, le discounter qui fait la différence.
920 grammes environ, les 4 basques.
This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me.
Sans tabou, 12h-12h30, avec Anne-Sophie et Jérôme.
Nous sommes toujours au cœur de notre émission Sans tabou, consacrée aujourd'hui au harcèlement scolaire. Et nous sommes toujours en compagnie de notre invitée Alexia Mézé, médiatrice au sein de l'association Apsis Émergence à Thionville. Et nous avons également Sabrina au standard, Jérôme.
Bonjour Sabrina.
Bonjour Sabrina.
Bonjour toute l'équipe de leur FM.
Sabrina, vous m'avez passé Voilà, allez-y. Bah non, mais très bien, allez-y. Parfait.
Non, mais en fait, moi, je voulais rebondir sur sur ce que disait Madame Mézé concernant le fait qu'il ne faut pas hésiter à contacter le chef d'établissement. Donc moi, je suis maman d'une fille qui est maintenant en 5e et qui a subi du harcèlement l'année dernière lorsqu'elle est entrée en 6e parce qu'elle était très bonne élève de sa classe. Donc, bizarrement, elle a été très vite, très, très rapidement mise à l'écart. Plus personne ne lui parlait. Enfin, il y avait une meneuse au départ qui a un petit peu embrigadé 3-4 fille de la classe, puis ben, tout le reste, en sachant que c'était une toute petite classe de 19 élèves, dont à peu près 8 ou 9 filles, donc ben, ça va très vite. Et je me suis vite aperçue de la situation. Et par contre, quand j'ai pris contact avec la CPE à ce moment-là, elle a très bien géré la situation, a convoqué les filles, une après l'autre, avec ma fille en confrontation. Par contre, ça a continué, mais de façon beaucoup plus après ceci.
Ça a coupé, excusez-nous, vous nous aviez dit de façon de plus... Je disais, ça a coupé, on n'a pas compris. Ça a continué, vous avez dit, de façon
plus sournoise, c'est-à-dire que les filles ayant été convoquées par la CPE, sachant que du coup, ben, elles risquaient d'être réprimandées si elles étaient reprises à harceler ma fille, du coup, elles ont fait ça de façon beaucoup plus... c'était plus sournois, elle s'était beaucoup dans son dos, elle l'a bousculée, puis elle lui disait, ben, tu peux t'excuser, enfin, plein de petites choses comme ça au quotidien, et qui ont fait en fait que monter en termes de violence, même si au départ c'était que verbal, c'est monté un petit peu crescendo. Donc j'ai pris les devants et j'ai averti directement le principal de l'établissement en disant que ben, la CPE avait très bien fait son travail au départ, que pour moi c'était vraiment très bien pris en charge. Par contre que maintenant ça montait en grade et que j'avais peur pour ma fille parce que ma fille avait peur de retourner au collège.
C'est allé jusqu'aux menaces.
Et là, ben, j'étais très... Pardon ?
Est-ce que c'est allé jusqu'aux menaces, madame ?
C'est allé jusqu'aux menaces, oui, parce que là où j'en ai voulu au principal, et je lui ai dit par la suite, c'est qu'au lieu d'avertir les parents, parce que moi j'ai demandé un entretien avec les parents de la jeune fille en question, qui était meneuse, pour justement que tout ça s'arrête, et il a convoqué la jeune fille, lui, en lui disant, voilà, madame Intel, la maman de cette jeune fille, apparemment avec qui tu as des soucis, voudrait voir tes parents, il faut que tu me dises quand est-ce qu'ils sont disponibles. Donc elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a demandé à son grand frère de troisième d'attraper discrètement ma fille à la récréation derrière un bâtiment.
Et ça s'est terminé comment, cette histoire ?
Eh bien, maintenant, ça s'est bien terminé, puisque au final, le jeune homme a juste menacé verbalement ma fille, qui a eu très peur, qui a fondu en larmes tout de suite, qui a été remarqué par une surveillante. Et la surveillante a tout de suite convoqué le jeune homme en question et la jeune fille, parce qu'on a eu la chance ce jour-là qu'il y avait une gendarme dans l'établissement qui venait faire une intervention dans une autre classe pour complètement autre chose, concernant justement le harcèlement, et qui a été témoin de la situation et qui du coup a forcé ma fille à parler puisqu'elle ne voulait pas parler, ne voulait pas donner de nom du pourquoi elle pleurait. Et de là, ils ont convoqué à ce moment-là tout le monde, les parents de la jeune fille et moi qui enfin a été écoutée, qui depuis des mois demandait un entretien avec les fameux parents.
Alors, Madame Mézé, j'aimerais vous faire réagir sur ce témoignage. Est-ce que c'est courant que les gérants des établissements demandent la confrontation avec les parents, mais par l'intermédiaire du harceleur ou de la harceleuse? Est-ce que c'était la bonne manière de faire, selon vous?
Alors, c'est quand même, ça fait partie du protocole, effectivement, donné par l'Éducation nationale, de convoquer les élèves et de mettre, après, chaque chef d'établissement fait quand même un petit peu comme il le souhaite. Toujours est-il que dans les cas de harcèlement scolaire, effectivement, il faut un suivi. Il faut absolument un suivi. Ça suffit pas de convoquer les 10 agresseurs et de le confronter à la victime. Il faut vraiment régulièrement les revoir et suivre la situation, parce que sinon, ça peut très vite se dégrader à nouveau.
Sabrina, oh pardon, excusez-moi, je vais juste savoir comment s'est passée cette rencontre avec les autres parents.
Bah, les parents étaient complètement étonnés. Parce que la maman a pris un peu la défense de sa fille. Le papa, qui pour lui était dans la même démarche que moi en termes éducatifs, était pas du tout d'accord avec le comportement de sa fille. Il était étonné parce que il l'a dit devant le chef d'établissement, parce qu'en plus moi j'ai reproché au chef d'établissement de la procédure dans laquelle ça s'est fait. Vous voyez, je veux dire, ma fille aurait pu être vraiment agressée par le frère dit. Vu que lui était passé par la jeune fille pour convoquer les parents. Et en plus, le chef d'établissement n'a pas accepté ma remarque, n'a pas accepté ma critique, et je pense que jusqu'à maintenant, il n'acceptera pas. Mais le père a dit, j'aurais bien aimé le savoir plus tôt, parce que j'aurais serré les vis plus rapidement. Et on en serait... Parce que l'histoire a démarré en novembre, ma fille a été convoquée par la CPE en confrontation avec les filles en décembre. Ça s'est calmé un petit peu, et la confrontation avec les parents, etc., ne s'est faite qu'en mai.
Wesh.
Donc, un sacré laps de temps.
Donc, toute l'année scolaire a été. Bah, moi, entre-temps, j'ai visité d'autres établissements privés du coin parce que je voulais changer ma fille d'établissement. C'est pour ça que quand j'entends qu'on déscolarise, je peux comprendre parce que c'est difficile à vivre. Nous, ça nous a. Et on l'a dit aux parents en face, même nous, ça nous a pourri d'un point de vue familial. Parce que on, tous les jours, on l'a questionné pour savoir si ça allait. Tous les jours, on avait envie de savoir comment que ça se passait à l'école. Donc c'est difficile. Maintenant, elle s'en est sortie, elle a pris confiance en elle. On a fait en sorte qu'elle ne soit pas en classe avec la dite meneuse. Donc elle n'est plus en classe avec cette jeune fille. On n'est pas à l'abri qu'un jour, elle est qu'en cinquième, qu'un jour elle se retrouve avec cette jeune fille en classe. Bon, je pense qu'elle a pris un petit peu plus de confiance et elle aura un petit peu un plus d'armes, même si c'est quelqu'un de toute façon un petit peu réservé. Mais oui, ça peut gâcher vraiment une scolarité.
Merci beaucoup Sabrina de nous témoignage. Bonne journée.
Mais je vous en prie, bonne journée à tout le monde.
Au revoir Sabrina, bon week-end.
Madame Mézet, justement, est-ce que vous pensez que dans ce cas-là précis, mais dans n'importe quel autre cas, le chef d'établissement, une fois qu'il est au courant, devrait directement contacter les parents sans passer par l'enfant, puisque là, on l'a vu, il y avait quand même un risque de représailles.
Alors, l'étape avec les parents, effectivement, elle me semble indispensable. Maintenant, je pense que voir l'enfant aussi en premier, ça fait partie de son rôle, quoi.
Est-ce qu'il était utile de dire à la jeune fille, donc qui est ici la meneuse, la harceleuse, est-ce qu'il était utile de lui dire « on va convoquer tes parents, dis-moi quand est-ce qu'ils sont disponibles » puisque on a vu que ça a provoqué une tentative de représailles. Est-ce que le chef d'établissement aurait pu contacter directement les parents sans en avertir la jeune fille en amont ?
Ben ça, j'imagine que oui. Après, ça relève vraiment de la manière dont le chef d'établissement souhaite se comporter dans son établissement. Donc, je ne peux pas dire plus.
Généralement, les meneurs, les harceleurs, donc qu'ils soient garçons ou filles, hein, peu importe, mais est-ce que c'est un problème de confiance en eux qui fait qu'ils se sentent un peu obligés de ridiculiser leurs camarades ?
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les meneurs, il y a des caractéristiques. Effectivement, parfois, ce sont des personnes qui n'ont pas du tout confiance en elles et qui, en agressant l'autre, essayent de se montrer un semblant de pouvoir. Mais comme l'a dit aussi votre interlocutrice qui racontait pour sa fille, c'est des fois des gens qui ont reçu une très bonne éducation, qui ont une bonne confiance en eux. Donc, les caractéristiques du meneur, c'est très vraiment difficile de les spécifier, quoi. Il n'y a pas de profil type. Souvent on retrouve quand même ce manque d'empathie. Il peut y avoir des difficultés familiales, mais comme il peut ne pas y en avoir non plus, quoi. Et il y a ce fameux phénomène de groupe, parce que du coup en groupe c'est plus facile d'agresser et c'est surtout ce phénomène de groupe qu'il faut combattre, quoi. Pas seulement le meneur.
Alors quid de la question de la responsabilité des parents? C'est Greg qui va tenter de répondre à cette question au standard. Bonjour Greg.
Bonjour.
Alors Greg, vous vouliez réagir et vous vouliez parler de la responsabilité des parents dans tout ça.
Moi, je parle donc en tant que père. Hein, j'ai une fille de 14 ans. Je sais que je la laisse pas faire ce qu'elle veut, même sur les réseaux sociaux. Son téléphone, je veux dire, tous les enfants maintenant, ils sont équipés de téléphone, ils ont accès à Internet en permanence, ils sont connectés en permanence. Mais c'est pas pour ça qu'il faut les laisser faire ce qu'ils veulent non plus. Hein. Moi, ma fille, toutes les semaines, elle me laisse contrôler son téléphone, ses messages, tout.
Et est-ce que du coup, vous pensez que avec cette méthode-là, vous pouvez réussir à lui éviter d'être harcelé ou harceleuse d'ailleurs ?
Bah oui, dans les deux sens, parce qu'on voit tout de suite s'il y a un problème ou pas, quoi. Bon, rien qu'un exemple bidon, hein. Elle avait le nom d'une copine à elle avec des smileys qui n'étaient pas forcément très gentils, adossés au prénom.
Ouais.
Je lui ai fait retirer tout de suite les smileys, ça peut tout de suite prêter à confusion.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Madame Mézet, quand vous entendez ce discours que Greg tient, il faut peut-être s'immiscer plus dans la vie de l'enfant pour essayer de le protéger. C'est un cercle vicieux, en fait. C'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Compliqué.
Ça,
encore une fois, c'est très difficile parce que, voilà, on voit bien que les jeunes... oui, bien sûr, hein, si les jeunes acceptent que les parents regardent aussi tout, mais sachant que parfois il y a des comptes cachés, que parfois les élèves eux-mêmes, les victimes eux-mêmes... peuvent cacher des messages, c'est compliqué. Je pense que la responsabilité des parents, elle est là, mais on peut pas non plus les culpabiliser s'il y a des choses qui sont mises sur les réseaux sociaux, parce que ça va très vite. Mmh. Et du coup, moi vraiment, je pense que pour lutter contre le harcèlement scolaire, c'est vraiment un travail en amont où il faut responsabiliser les jeunes sur l'outil qu'ils ont à leur disposition, parce que c'est un outil merveilleux, mais qui effectivement demande une responsabilisation et donc les sensibiliser, les informer, les éduquer à cet outil-là.
On va remercier Greg pour son témoignage.
Merci beaucoup Greg.
De rien.
Bonne journée, à bientôt. On poursuit cette émission jusqu'à 13h.
Alors, Madame Mézet, justement, on parlait des réseaux sociaux. Alors, entre Facebook, Twitter, les smartphones, etc., il y a le cyberharcèlement qui s'est donc développé. Est-ce que, à votre avis, c'est plus facile pour les harceleurs de, justement, d'agresser à travers un écran? Est-ce que c'est plus simple?
Ah oui, c'est vraiment plus simple. Hein. Le harcèlement, le cyberharcèlement, hein, c'est vraiment une forme de harcèlement qui augmente le nombre de harceleurs parce que c'est beaucoup plus facile. Il suffit, on n'a pas la victime en face de soi, on est derrière un écran,
on
chez soi,
peut-être moins compte
et
aussi.
Il suffit d'appuyer, en fait, enfin de cliquer avec la souris, d'appuyer, voilà, sur le like. Donc c'est extrêmement facile. Donc ça augmente vraiment le nombre d'agresseurs.
Et c'est un phénomène qu'on voit se développer depuis combien d'années à peu près?
Ben, je dirais surtout ces 10 dernières années, parce que avant, depuis que la technologie existe et qu'elle s'est vraiment mise au point, là, ça devient dramatique. C'est pour ça qu'il faut éduquer les jeunes à cet outil-là, parce que c'est un outil qui peut faire des ravages assez rapidement.
Tout à fait.
Oui, alors oui, ben attends, parce que je me jette sur le micro, le studio est grand et du coup des fois ça paraît un peu loin. Alors on va reprendre un témoignage qu'on n'a pas eu encore, c'est Monia qu'on a au téléphone, elle est maman d'un enfant qui est handicapé et c'est vrai que dans le harcèlement, eh bien on oublie ces petits bouts de chou qui se retrouvent également dans le milieu scolaire. Bonjour Monia.
Bonjour Monia.
Bonjour, bonjour l'équipe Heure FM. Déjà merci parce que vous êtes géniaux, je vous écoute tous les jours et ça me donne du peps quand je vais travailler.
Eh ben merci voilà. Beaucoup Monia.
Et donc, moi, en fait, c'est simple. Je suis maman donc d'un petit garçon qui a 8 ans et qui souffre d'un déficit d'attention avec hyperactivité et d'autres troubles neurologiques. Et donc là, je pense que je vais m'adresser, en fait, au nom de toutes les mamans qui ont aussi des enfants qui ont un handicap qui soit physique ou soit mental. Et c'est vrai que c'est très difficile. Il a été scolarisé dans une école normale, malgré les professeurs vraiment géniaux, parce qu'ils ont vraiment essayé de tout faire. Il manque de moyens, malheureusement, l'éducation nationale manque de moyens. Il a subi beaucoup de harcèlement, beaucoup de moqueries. Il en était arrivé à se mordre, à se faire du mal à lui-même. Moi, j'ai failli perdre mon boulot parce qu'effectivement, je n'arrivais plus à suivre cela et ça partait en crise. Et il a une grande sœur de 11 ans qui, elle, est précoce et subissait, elle aussi, du coup, de l'harcèlement parce que c'était les moqueries du petit frère. Donc, ça rentrait dans un cercle vicieux.
Une spirale infernale, en fait.
Hein. Pardon ?
Une spirale infernale, en fait. Hein.
Oui, c'était ça, c'était une spirale infernale. Et donc, on est arrivé à le mettre en classe Ulysse, hein, donc c'est anciennement Clis, hein, pour qu'il puisse un petit peu souffler. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça va mieux. Mais ce qu'il y a, c'est là vraiment notamment où je pointe le doigt. C'est vrai que l'État dit qu'il faut mettre les enfants en inclusion, essayer de les mettre dans des classes entre guillemets normales. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment des enfants qui ont des difficultés. Et le mettre dans une classe normale, ça va servir à quoi? Ça va renforcer.
Et puis,
j'ai mon enfant qui, lui par exemple, il va en inclusion sportive ou en religion. Il se retrouve des fois à avoir une énurésie parce que c'est l'angoisse qui monte, c'est se mordiller, toutes ces choses-là. Donc, pour conclure, je dirais juste que il y a vraiment un travail à faire, mais c'est vraiment, on va dire, d'en haut pour que ça soit en bas. Parce que nous, les parents, on se bat justement pour que ça se passe mieux, pour que nos enfants ne souffrent pas. Il y en a qui déscolarisent hein, complètement leur enfant. Moi, pour le moment, je n'ai pas le faire parce que j'ai vraiment, on va dire, des bonnes étoiles autour de nous qui nous aident vraiment. Mais effectivement, ça peut arriver. Et ça arrive beaucoup de fois.
Merci Monia votre témoignage.
Merci beaucoup Monia. Très belle journée à vous et bon courage.
On va faire réagir notre invité. Mais justement, moi, je me pose une question. C'est vrai que on le dit pas assez, mais Madame Mézet, les enfants sont cruels entre eux.
À partir du moment où les enfants sont en société, effectivement, eh ben, il y a des conflits. Hein. Les conflits, c'est pas mauvais en soi, puisque justement, ça peut même permettre de progresser, de s'affirmer. Mais il faut un petit peu savoir les gérer, et ça, c'est pas évident, c'est pas naturel. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a même des techniques hein, qui permettent d'enseigner et l'empathie et la gestion des conflits dès les enfants, dès la maternelle, hein, enfin, dès qu'ils rentrent dans une communauté. Avec des gens différents et apprendre à bien vivre ensemble, et ben peut-être que ça commence par l'éducation, oui, de l'empathie, de la gestion des conflits, de la communication non violente. Après, je dirais pas que les enfants sont méchants, quoi. C'est vraiment un bien vivre ensemble qui s'apprend.
Alors, Madame Mézet, à votre avis, est-ce qu'il faudrait plus de moyens financiers dans les établissements scolaires pour lutter efficacement contre le harcèlement, ou est-ce qu'il faudrait plus de prévention, tout simplement,
ou de personnel?
Alors, Voilà, les moyens financiers, si on en a, tant mieux, hein, parce que du coup, effectivement, on peut faire encore plus de choses, mais il y a déjà des choses qui sont mises en place. Plus de prévention, oui, je pense que dans tous les établissements scolaires, ça devrait être obligatoire, quand on devrait en parler avec les élèves, parce que plus on en parle, plus ils sont au courant, plus les témoins aussi, on parle des victimes qui n'arrivent pas à parler, le rôle des témoins, il est aussi extrêmement important, parce que du coup, si les victimes n'arrivent pas à parler, eh ben les témoins, eux, peuvent parler, peuvent faire quelque chose, ils peuvent aussi rompre l'isolement de la victime en allant la voir, en allant lui parler, en en parlant dans la famille, voilà, c'est du coup, hein, voilà, aussi quelque chose, qui, voilà, il faut vraiment en parler avec les jeunes, et peut-être même chaque année, et plus souvent.
Eh bien, merci beaucoup, Madame Mézet, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je le rappelle, vous êtes médiatrice au sein de l'association APSIS Émergence de Thionville.
Je suis médiatrice familiale.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, au passage, on peut vous contacter, hein, si jamais on rencontre ce genre de difficultés.
Oui, bien sûr. Hein, les coordonnées de l'association APSIS Émergence sont sur Internet. Voilà.
Alors, APSIS Émergence, ça s'écrit APSIS. Émergence, comme ça se prononce. Et vous êtes située à Thionville. Merci beaucoup, madame.
Merci beaucoup,
voilà,
Madame Mézet.
Merci à vous.
Bon week-end à vous également. On va bien sûr terminer cette émission sur quand même un message que tu voudrais passer, Anso.
Oui, moi j'aimerais vraiment conclure en rappelant que quelles que soient les violences subies, qu'elles soient verbales ou physiques, il ne faut jamais les taire, car en parler, c'est déjà avancé. Alors n'ayez pas honte d'être la victime d'un harceleur, vous valez beaucoup mieux que ça.
Rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Sans Tabou.